France Culture.
C'est une pièce où les feuilles de laurier sont enfermées dans du grillage par rectangle. C'est comme si c'était la nature qui était desséchée un peu. Et puis il y a une odeur. Ça sent moins avec le temps, mais au début c'était impressionnant quand elle a été installée. Et puis les feuilles de laurier sont séchées, donc elles ont une couleur terre. Et puis il y a ce poumon fait de feuilles de laurier, c'est doré, je ne sais pas si c'est du bronze, j'imagine doré. Je n'ai pas de mots, c'est absolument magnifique. Voilà, je l'aime. J'ai pas réussi à trouver les couleurs, mais malgré ma gamme de couleurs qui est large, j'ai pas réussi à rendre les couleurs. Et je regrette de ne pas avoir amené un feutre doré pour rendre hommage à ce poumon qui est doré. Et j'y ai pensé cette nuit en plus, mais j'ai oublié. Là, ce matin, j'étais au taquet. Je suis arrivée la première, je me suis installée et je suis super contente.
Vous voyez que l'entrée est absolument gratuite à tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la couche sociale. Et toutes les activités qui se trouvent donc au niveau de la piazza, donc au niveau de l'accueil ici, de même qu'au niveau des rues, lorsque nous allons monter les escaliers à droite et à gauche, sont gratuites. Alors ce que vous apercevez ici, de la balustrade, c'est ce qu'on appelle le forum, qui est un endroit réservé à des expositions temporaires. Et actuellement, on est en train de monter une exposition qui sera ouverte pour le début du mois de mai, qui s'appelle le Crocodrome de Tingeliz Nikitsinsal. Inutile de vous dire que ça a l'air assez compliqué, que c'est un espèce de train dans lequel les enfants vont s'embarquer, que ça va faire un boucan terrible, je pense. Enfin, ça va être amusant, ce sera gratuit. Le tout, c'est de voir ça une fois terminé. Pour l'instant, c'est un peu difficile de concevoir.
Pompidou disparaît. Un musée recopié. Coppelia Menardi, Simon Gaucher, Assia Weber.
Il faut savoir qu'ici, avant, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, avant le centre Pompidou, il y a des siècles de ça, c'était la cour des miracles.
Hein. Francine, référente sécurité au centre Pompidou.
Donc il y a, on sent, si vous allez vous balader en bibliothèque, il y a une énergie, ça attire beaucoup, vous avez des gens qui sont un peu dans un autre monde. Selon les endroits, ça attire vraiment. En bibliothèque, il y a une population bien spécifique. On a plein d'anecdotes là-dessus. On a des habitués qui viennent, on les connaît tous. Voilà, et il y a des fous, il y a ce qu'on appelle des fous, mais pour moi, ils sont pas fous, ils sont ailleurs, quoi. Ils sont pas méchants, hein. Le centre Pompidou, pour moi personnellement, c'est ma deuxième maison. Je travaille pour le centre, pas au centre. C'est vraiment un lieu magique, une ville dans la ville. C'est un lieu attachant, on s'attache énormément à ce lieu-là, ce qui nous apporte énormément. Il demande énormément, il prend beaucoup, mais il donne aussi. Puis c'est ce privilège qu'on a, nous, que ça soit le matin, très tôt, avant l'ouverture, on fait des rondes à 6h du matin. Il n'y a personne, les œuvres, elles sont à nous, donc on peut, voilà, on peut s'attarder, à, une fois que la ronde est faite, à s'imprégner de l'atmosphère, selon les expos aussi, voir ce que l'artiste a voulu faire ou exprimer, puis on laisse parler l'imagination.
France Inter, 31 janvier 1977.
Je ne suis pas contre et je ne peux pas dire que je trouve ça vraiment laid. Mais inversement, je ne peux pas dire non plus que je suis très emballée.
Je suis déroutée, mais en fait j'essaye de me persuader qu'il faut que je me détache de tout ce que j'ai aimé jusqu'à présent et j'essaye de voir en quoi ça peut être intéressant.
Ça va peut-être être fonctionnel, ça rendra certainement des services, mais pour l'aspect extérieur, c'est vraiment pas beau. Hein. Oh, ça vous démolit.
En toute sincérité, je suis déçu. C'est un amas de ferraille. Sur le derrière, vous avez des espèces de cheminées de paquebots. Le devant, il y a des espèces de chenilles qui montent.
Très bien, très
bien. Pourquoi ?
Parce qu'il est très moderne et j'aime beaucoup le moderne.
Vous trouvez ça joli ?
Très joli, très joli. Ses couleurs, tout.
C'est assez dégueulasse.
L'usine Pompidou, c'est une usine de tuyauterie en tout genre. Hein.
Ah, faut aller voir chez Renault, c'est presque mieux.
Les gens, je ne sais pas ce qu'ils disaient, ils n'aimaient pas les tuyaux, mais c'était tous ces tuyaux-là. C'était en 70, alors que c'était beau, c'était coloré, c'était ah ben comme un vaisseau, c'était magnifique.
Henriette, copiste.
Je ne sais pas, moi, c'est la droite, machin, tous les réactionnaires conservateurs qui trouvaient que c'est des gens qui n'existent pas pour moi, je suis désolée. Oui, il y avait des choses bien plus surprenantes à l'époque, hein, entre la guerre du Vietnam, machin, et les tortures de je sais pas qui, et l'Argentine, le Chili, c'était ça qui nous occupait. Hein.
Et vous vous rappelez la première fois que vous avez mis les pieds à Pompidou ? Dans quelles circonstances c'était ?
C'était mon copain qui était suisse et qui lui connaissait, plus que moi. Il me dit, viens, on va voir Tinguely, puisqu'il était suisse, voilà. Et il y avait une grande machine de Tinguely. Je ne sais plus si elle est au musée ou si elle est repartie, j'en sais rien, voilà, c'est tout. En plus, il y avait à côté la place, qui est toujours d'ailleurs, comment elle s'appelle ? Oui, la place Stravinsky avec Niki de Saint-Phalle, tout ça, c'est très joli comme quartier.
ORTF, 19 juillet 1971.
En plein centre de Paris, dans le quartier populaire de l'Hôtel de Ville, entre les Halles et le Marais, s'élèvera en 1975 le centre d'art contemporain. Idée dominante, relier les beaux quartiers au faubourg populaire. C'est le projet d'un groupe italien, Piano and Rogers, le voici, qui a été retenu par le jury.
La première chose qu'on a cherché de faire, c'était de faire justement...
Renzo Piano.
Plus qu'un bâtiment, un système, vous savez, quelque chose de très libre... de se rénover, de se changer avec les situations, avec le temps. Comme ça, ce bâtiment, c'est exactement peut-être, au moins c'est dans l'intention, c'est exactement le contraire d'un monument.
Ce bâtiment nous apparaît comme marquant une étape dans la construction actuelle.
Jean Prouvé.
Nous nous sommes trouvés devant 680 projets. Et nous sommes découverts très vite allergiques aux grands gestes architecturaux. D'ailleurs, nous avons découvert une chose en connaissant les auteurs et en les voyant surtout, c'est qu'ils sont jeunes. Et ça, c'est important. Ça nous a beaucoup plu.
Et bon, après, bon, Pompidou surgit, c'est bien agréable. C'était une jolie idée, hein. Ça devait être pour calmer la jeunesse et la distraire, ce qui est une bonne raison. Une jeunesse qui était très échauffée, c'est-à-dire on était tous maoïstes, communistes, trotskistes, on était tout ça. Hein. Tous les garçons de ma génération, sauf les étudiants qu'il y a eu plus tard, sont allés à la guerre d'Algérie. À 18 ans, ils allaient faire la GIGN, machin, ils revenaient cassés, foutus pour toute la vie. On a vu tout ça. Et alors je pense qu'en effet, Pompidou a eu une bonne idée de faire le centre Pompidou. Tandis que notre petit jeune homme à la con, là, il nous restaure une cathédrale.
Alors n'hésitez pas à vous rapprocher, n'hésitez pas à revenir tous dans le grand salon.
Simon Gaucher.
Ça va commencer. Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être là pour lancer ce pari un peu audacieux qui est de recopier l'intégralité des collections permanentes du Centre Pompidou avant sa fermeture prochaine pour rénovation. Donc vous ne le savez pas encore, mais vous allez devenir comme des archives vivantes du musée tel qu'il est aujourd'hui. Donc là, on est dans le grand salon et on va dire que c'est un peu notre quartier général pour la journée. Et c'est là où vous pouvez venir à tout moment vous reposer. Donc on va se lancer dans une sorte de marathon. On a 3 jours pour recopier l'intégralité du musée. Il va pas falloir chômer parce qu'il y a à peu près 1300 œuvres. Mais qui dit marathon dit échauffement. Donc l'idée c'est qu'on va s'échauffer physiquement. Et on commence toujours par le bras droit.
Alors, moi je suis Bintou, mais vous pourrez m'appeler, comment dire, Miss, parce que j'ai 24 ans, et puis quoi encore, on s'en fiche. Je suis Bintou.
T'habites où ?
Oh, Barbès. Ouais, Barbès, c'est un chercheur château rouge. Et quand j'ai appris que Bobo va être fermé pendant 5 ans, je me suis dit que ce serait l'occasion que j'aille voir, dessiner les œuvres et revoir les œuvres parce que ça fait un moment que je ne suis pas passée à Beaubourg. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de dessins, j'adore dessiner, notamment parce que je lis beaucoup de mangas. Parce que quand j'étais petite, j'avais regardé un manga dans Dragon Ball et franchement, j'adore ces dessins, ils sont vraiment juste masterclass et j'aime bien genre des positions des personnages qui sont debout, assis, debout comme ça. Oh pardon, et ça me donne envie de dessiner.
Et là, c'est quoi l'œuvre que tu as choisi de recopier ? Tu peux nous la décrire un petit peu ?
En fait, c'est les dessins qu'on appelle Julie Haute où tu as des danseurs qui se pique-niquent. Et ça me donne envie de dessiner parce que c'est la première fois que je dessine un tel recopie, un tel chef-d'œuvre.
Essaye d'élargir encore un peu.
Je dirais que c'est facile. Bon, c'est un peu difficile parce que dans les mouvements, c'est dur. Parce que par exemple, j'ai un peu de mal à dessiner le mouvement des danseurs. C'est... Parfois, je suis confortablement couchée pour dessiner ou parfois assis pour dessiner, mais je préfère coucher parce que c'est plus cohérent.
Et donc, comme je le disais, on commence bras droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Je pense que c'était en 2015, en décembre 2015. J'étais dans une exposition du Centre Pompidou. Il y avait une œuvre de Picasso qui s'appelle, je crois, Tête de taureau, qui est formée avec une selle et un guidon. Et il y avait un jeune homme devant moi qui recopiait justement cette œuvre sur un petit carnet. Et les visiteurs, les visiteuses ne pouvaient pas s'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir sa copie. Et en fait, j'avais l'impression même que les gens étaient presque plus intéressés par l'œuvre en train d'être recopiée que par l'original. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, je me souviens, mais qu'est-ce qui se passerait si on invitait plusieurs centaines de copistes à recopier tout un musée en un ou plusieurs jours ?
Tout à l'heure, vous pourrez venir chercher votre matériel ici. Bien indiqué, c'est hyper important, vos noms, le nom de l'œuvre que vous recopiez, la date. Donc voilà, toutes les tables à fourniture sont là et vont se déplacer tout le long de cette travée centrale. Et donc quand vous aurez fini votre copie, il s'agira de la descendre dans la galerie ouest via cet escalier.
Je crois que j'ai jamais fait ça. C'est un exercice que j'ai jamais fait.
Sylvain, copiste.
J'ai la chance de pouvoir suivre des cours du soir aux Beaux-Arts de Paris. Donc généralement, ce sont des cours de modèles vivants, de modèles de nus. Et cette fois-ci, je dois réinterpréter des œuvres d'art qu'on connaît, qu'on aime, qu'on admire. Et la technique de le faire au crayon de couleur, je ne l'ai jamais fait. Donc c'est aussi une première, donc c'est un petit challenge de réaliser ces œuvres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une boulimie, une vraie boulimie d'œuvres d'art. Le Beaubourg est une fenêtre ouverte, c'est-à-dire qu'on peut y aller quand on veut. J'ai la chance d'habiter le quartier. Et là, pendant 5 ans, on ne va pas pouvoir en profiter. Donc c'est aussi une manière de s'approprier l'espace, le lieu. Et surtout comprendre les œuvres et passer beaucoup plus de temps sur une œuvre. Alors que d'habitude, quand on vient au musée, on ne reste pas longtemps. On reste 30 secondes devant une œuvre d'art. Là, je suis depuis une heure sur le même tableau et que je ne connaissais pas. Et ce sont les couleurs qui m'ont intéressé et je me suis focalisé sur ce portrait. Donc c'est la jeune Finlandaise peinte par Sonia Delaney. C'est une toile qui date de 1907. Et moi je suis fan des couleurs. Il y a une palette incroyable. On part des couleurs primaires, des couleurs secondaires, le bleu est... un bleu cobalt qui est extraordinaire, c'est très beau et c'est soutenu à certains endroits par des couleurs très très foncées telles que le noir, et on imagine que le noir ce sont plusieurs couleurs qui sont superposées et ce visage est incroyable. Enfin moi je suis fan, et là même la position des mains que j'ai pas réussi encore à faire, non je suis vraiment impressionné par cette œuvre.
C'est quoi les principales difficultés qu'elle pose pour la copie?
La rapidité, il faut aller vite, même si on a peut-être toute la journée pour la redessiner, il faut aller à l'essentiel et on ne peut pas faire mieux. Et la difficulté, c'est peut-être la technique, parce que j'imagine que c'est une peinture à l'huile, alors que moi j'ai que 3 crayons de couleur, ça va être compliqué à refaire ces beaux aplats. Et puis on ne peut pas se mesurer à l'œuvre et à l'artiste.
T'habites où, Ulysse ?
À Noisy-le-Sec. C'est pas ici.
T'étais déjà venue au Centre Pompidou avant ?
Ici ? Au Centre Pompidou, oui, mais dans cette salle, je me rappelle plus.
Tu peux nous raconter ce que tu fais là ? C'est quoi l'œuvre que tu recopies ?
Je fais le monsieur qui est là. Il a une petite barbe. Il a derrière lui, il a un tableau. Il a un costume noir avec une cravate et un fauteuil, et il est sérieux. Voilà, j'ai quand même beaucoup de choses à faire. J'ai à tout colorier et à colorier la peau, et j'ai plein de choses à faire encore.
Tu sais qui c'est qui la peinte ?
Henri Matisse. Et je dessine souvent des bonhommes avec plein de, par exemple, des yeux qui sont comme ça, des sourcils comme ça, ou plein de styles de dessin.
Moi, je viens en renfort de Léonie qui a entrepris
Élise
de faire pousser une forêt. Et donc, on l'a fait pousser ensemble. Donc, l'idée, c'est de faire venir le soleil et les contrastes dans le sous-bois. Et la multiplicité et le vivant dans ce sous-bois.
Moi, ça m'arrive de venir dessiner au musée, mais là, le fait de passer toute la journée,
Léonie,
d'être avec des gens qu'on ne connaît pas forcément à la base, enfin, il y a une expérience collective qui, pour moi, est hyper grisante.
C'est les œuvres sur les murs qui deviennent les nôtres aujourd'hui. Ouais. Toutes ces collections, c'est des collections qui nous appartiennent parce qu'à un moment, là, on a ce temps privilégié avec elles. Et puis, faire quelque chose d'extraordinaire dans un espace aussi normé que le musée, où on nous demande d'avoir une posture de visiteur habituellement impeccable. Voilà. Et là, on peut être des acteurs dans un lieu où habituellement, moi j'ai toujours été que visiteur au musée. Quoi.
D'abord, évidemment, le monde de l'art m'intéresse. Hein. Et puis aussi, les gens qui circulent, qui me plaisent beaucoup. Il y a quand même pas mal qui ont des looks, que je dirais, assez savoureux. Puis, comme il y a beaucoup d'étrangers, en plus, il y a une touche un peu exotique.
Jean-Yves, photographe amateur.
Ah oui. Et il y a un œuf qui m'avait beaucoup plu. Surtout, le pire, c'est que je ne vois pas de son nom. Elle était exposée il y a peut-être 5-6 mois. C'était un cheval, une peau de cheval. Très, très fort, quoi. Puis alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir les gens. Quand ils passaient devant, quoi. L'attitude qu'ils avaient. Ah oui, oui, parce que ça, il y avait un choc visuel. Alors, automatiquement, il y avait des expressions. Je me régalais déjà à voir les jambes.
Chers copistes du musée Recopier, notre marathon dessin a commencé. Le musée vient d'ouvrir et les visiteurs vont bientôt arriver. Sachez qu'il y a quelques œuvres qui n'ont pas trouvé, en tout cas, de copistes à l'heure actuelle. Il y a des tableaux de Dubuffet, de Fernand Léger et de Clifford Steele qui restent à recopier. Il y a aussi les maquettes de Le Corbusier, et oui, les maquettes aussi sont à recopier. Et il y a également un film de Fernand Léger. Bonne copie à toutes et à tous.
Là, ce sont les dernières acquisitions hein, qui sont rentrées cet automne en fait, dans les collections. Hein, c'est une artiste américaine. Tu sais lire l'anglais? Tu veux le lire en anglais?
Your privacy is very important to US 2022.
Bravo. Ah, donc là, c'est une artiste en
2022.
Bravo. Donc c'est une artiste américaine qui travaille sur le... C'est un petit peu l'inverse de JR, hein, qui demande... On a un regard en fait sur la population. Là, c'est un autre aspect du 21e siècle, hein, donc le fait de se cacher, de garder son côté privé. Donc effectivement, on ne voit apparaître que les pieds, le reste est vraiment caché.
Est-ce qu'il y a un reste ? En dessous, est-ce qu'il y a quelque chose ?
Ah, ça vous intrigue tous, les enfants, en dessous. Non, il n'y a absolument rien. Sur le plan pratique, en fait, ce sont des gros blocs de bois. Il n'y a plus de questions ? Je suis Gaëlle et je suis conférencière au Centre Pompidou. Depuis la réouverture, en fait, donc 2000. Parce que ça va être la deuxième fois qu'il ferme le centre. Tu sais, il avait fermé de 98 à 2000, hein, pour des histoires d'amiante, etc. Et là, il referme pour 5 ans. Ici, on reçoit tous les groupes, donc de la maternelle jusqu'au plus âgé, et tout type de public, hein, contrairement à d'autres institutions, parce qu'il y a le champ social ici, il y a un peu tout type de public. Hier, c'était le Resto du Cœur, avant, c'était tout type de public, ce qui n'est pas le cas sur d'autres institutions. C'est vrai que c'est pas du tout le même métier pour certains conférenciers. On leur demande davantage, en fait, d'expliquer l'histoire de l'art. Là, au centre, il y a un besoin de faire parler le public, en fait, de les faire réagir du plus petit au plus grand. Et puis des personnes qui maîtrisent bien la langue, comme des personnes qui maîtrisent moins bien la langue, comme les ateliers FLE. En fait, ça fonctionne très bien. Là, je viens de terminer la visite. Chacun pose ses questions. Et c'est vrai que c'est par rapport à ces questions, à ce ressenti, qu'on apprend également beaucoup. Par exemple, hier, il y a une dame de Côte d'Ivoire qui m'a appris, moi je ne savais pas, que Picasso avait séjourné en Côte d'Ivoire. En fait. Donc maintenant, ce village est très fier de présenter l'endroit où a séjourné Picasso. Enfin, c'est des échanges comme ça qui sont très intéressants. Je perds tous mes mots depuis tout à l'heure.
Vous inquiétez pas, depuis tout à l'heure, on l'aide, il n'y a aucun problème. Voilà, donc on y va.
C'est la fin de la journée. Alors voilà. Voilà, il y a les trois œuvres qui ne bougeront pas en fait pendant la fermeture. Et l'œuvre de Dubuffet. Hein,
on va aller la voir.
Oui, après. Oui. Le jardin d'hiver. Hein, donc ces trois œuvres ne bougeront pas en fait pendant la fermeture.
Non, mais celle-ci, c'en est une.
Alors, celle-ci, c'en est une. D'accord. Celle-ci, c'est toute une histoire. Hein, parce que Georges Pompidou, en fait, était un très grand amateur d'art optique. Et donc, il a demandé à cet artiste, en fait, de réaliser pour lui, pour ses appartements privés, cette œuvre. Hein, donc, c'était la salle d'attente. Sa salle d'attente, sa pièce, son antichambre. Donc, quand Giscard d'Estaing a pris ses fonctions, ça ne lui a pas plu du tout. Hein. Donc, il a offert, en fait, cette œuvre au centre. Nous, notre métier, c'est faire parler, en fait, les œuvres et montrer au public qu'en fait, ce n'est pas un seul et même discours, mais c'est l'aura qui émane des œuvres. C'est vrai que les œuvres ont une aura, hein, une aura particulière, en fait. Et l'exposition, par exemple, de Louise Bourgeois, je n'ai pas fait une visite sans qu'il y ait un ado qui tombe dans les pommes. Donc, à chaque fois, je devais appeler les pompiers. Parce que c'était cette exposition qui venait d'Angleterre, en fait. Là, en France, elle présentait davantage la mort et puis le sexe. Et eux, sur cet âge, troisième jusqu'en terminale, surtout qu'ils avaient tous un travail sur le corps. Donc, en fait, ils venaient en se disant « on va être interrogé sur le corps » et paf, ils tombaient dans les pommes. Filles, garçons. Donc, en fait, voilà, l'aura, c'est ça. Donc nous, les œuvres, on finit par les connaître et savoir à peu près les réactions du public. Donc ce public qui est fragile, parce que les 16, 17 ans, 18 ans, on sait qu'il ne faut pas trop s'attarder sur certaines œuvres, parce que sinon on va les ramasser par terre. Donc oui, elles parlent ces œuvres, elles ont une émotion en fait.
Et d'ailleurs, le couloir ici au niveau 4... Quand on fait un tour la nuit, il y a une présence, il y a quelque chose. Et bizarrement, dans d'autres endroits, c'est différent. Il y a des endroits où on se sent bien, il y a des endroits où on a froid, il y a des endroits où on sent quelque chose. L'anecdote, par exemple, quand je suis rentrée en 98, j'étais encore en formation. Et je faisais un tour dans le musée, justement, dans le couloir central. Et je vous jure qu'en faisant le tour, il faisait noir à l'époque, on n'avait pas de lumière, on avait des torches. Pour faire les rondes. Et arrivé tout au bout du couloir en faisant le tour, je sentais vraiment quelqu'un comme quelqu'un qui va vous faire ça. Ah là, j'ai tracé. J'ai marché très vite. J'ai été voir mon chef de groupe qui est parti à la retraite à l'époque. Et il m'a dit « Ah ouais, c'est normal, tu t'habitueras, il y a du monde au musée. » Moi, c'est Francine, et mon petit surnom, c'est la fée Clochette. J'ai toujours dit que ce métier, pour moi en tout cas, représenter un petit côté féerique de par le site où on travaille. Et puis le fait aussi d'un sorte d'ange gardien pour les visiteurs. La fée Clochette, elle est capable de faire de la magie. Donc dans ce métier, il faut s'adapter. Et il faut souvent faire preuve de... Hop, dernier moment, il faut sortir le petit truc du chapeau. Donc voilà. Font la musique. Il y a une vitre.
Oui, oui, je vois. Ouais.
Bon, je passe, donc je fais ma. On va dire que là, c'est les étagères, les rayonnages. Je passe et j'entends un. Je fais bon, ok, le bâtiment il bouge. Il faut savoir que le bâtiment bouge avec le métro en dessous, etc. Je fais pas gaffe. Je passe et boum, j'entends boum. Et en fait, c'est un gros, comme un dictionnaire, je m'en rappellerai toujours, de géographie. Il s'est ouvert sur l'Afrique. Je me dis, ok, je respire, je referme le bouquin, je le remets dans l'étagère, j'accélère un peu le pas quand même. Au moment où je traverse, je passe cette baie vitrée, je vous jure que c'est vrai. J'entends, vous savez, le verre qui... Elle est partie en 1000 morceaux. Il n'y avait personne, la vitre n'était pas fêlée, il n'y avait rien du tout. Elle est partie en 1000 morceaux, mais vraiment sans... Tous les verres se sont retrouvés au même endroit. Alors là, j'ai...
Et le lien avec l'Afrique ?
Afrique, alors là, ça peut être soit un message perso, parce que je suis très, très attirée par tout ce qui est égyptien, parce que je parle couramment. Ne me demandez pas comment, voilà, c'est comme ça. Je parle l'arabe littéraire, l'arabe égyptien. Voilà, c'est une langue, l'arabe littéraire, c'est une très belle langue. Ça me sert beaucoup au boulot, justement. Les gars, quand on avait des prieurs aussi, des gens qui priaient. Donc bah, les collègues, ils m'ont dit « Francine, tu peux venir, c'est pour toi !» Parce que l'approche, comme je connais, voilà, il y a une façon, comme je dis, c'est pas un métier de muscle. Il faut faire de la psychologie, du social et après de la sûreté. Le mec, j'attends, il finit sa prière. C'était un vieux monsieur. Puis il me voit et puis il caresse sa barbe comme ça. Et puis je vois l'air de dire ah, « c'est Satan, c'est, voilà, c'est haram, comme on dit, c'est péché, c'est une femme qui me parle. » Je le regarde et je lui parle en français exprès. Je lui dis, monsieur, excusez-moi, vous êtes dans une bibliothèque. C'est interdit de prier ici. Si vous voulez prier, il faut le faire dans, chez vous, en mosquée. Bon, il y a comme ça, il caresse sa barbe et puis il dit, Shaitan, Shaitan dans la gym. Dieu préserve-moi du diable. Et là, je le regarde et je lui dis, Winshoft Shaitan, où tu as vu un diable? Oh! Et là, chou! Masha'Allah, qui me dit, oh, que Dieu préserve. Ah, je lui dis, c'est maintenant, c'est que Dieu préserve. Oh, ma fille, il me dit pardon. Ça, c'est en arabe. Hein. Je lui dis, bah, chir, le vieux. Je suis quand même à votre âge. Puis vous voyez, dans la vie, on ne sait jamais à qui on a affaire. Quand même, si à votre âge, vous n'avez pas la sagesse, qui l'aura?
Attention, carillon. Chers copistes du musée Recopier, alors, je sais qu'on va traverser un moment délicat parce que c'est jamais facile de dessiner en digérant, mais je peux vous dire en tout cas qu'on a quasiment fini de recopier la zone 3. J'ai le plaisir aussi de vous annoncer qu'on ouvre officiellement la zone 4, au niveau 4. Et à toutes et tous, sachez que l'accrochage des copies du musée Recopier a lieu également au niveau 4. Au plaisir de vous y retrouver.
Alors c'est très amusant parce que le premier jour, je trouvais que c'était très performatif et j'avais envie de faire le plus d'œuvres possible pour que tout soit recopié, qu'il n'y ait pas de manque. Donc j'y allais, fissa, je me suis ruinée la santé, j'avais des crampes partout.
Brigitte,
copiste. Donc hier, en fait, j'ai fait plusieurs œuvres. Du coup, parce que c'est aussi, il faut dire, format raisin, c'est vraiment grand. Donc là, en plus au crayon de couleur, je peux par moments se lancer dans les aplats, pas rentrer trop dans les détails. Et là, je vais rentrer dans les détails. Hier, j'ai commencé par un Matisse. Alors, c'était confortable, on était une salle, il n'y avait personne, le public n'était pas encore arrivé. Et dès que le public est arrivé,
c'était l'enfer. Donc j'étais vraiment freinée dans l'avancée du dessin. Et puis après, je suis allée faire un carambolage. C'est ça qui était bien, c'est qu'ils ont installé une grande, grande feuille dans une salle. Alors là, on peut parler de mètres carrés, c'est plus un format raisin. Et là, on pouvait peindre la pièce à 360 à plusieurs sur ce grand espace.
Je suis un peu fatiguée, j'avoue.
Ézéchiel.
Le premier jour, j'ai fait 4 copies. Et là, j'en ai fait qu'une seule aujourd'hui. Je me suis un peu lancé un défi où je m'étais dit que je passerais vraiment beaucoup de temps sur une seule œuvre. Donc, j'ai fait un dessin au crayon de couleur. Et j'essaye de reproduire des ombres et des lumières, sauf qu'il n'y en a pas beaucoup parce que c'est en monochrome noir, donc c'est pas simple. En fait, il y a des moments un peu frustrants parce qu'il y a des hauts et des bas, il y a des moments où on a l'impression qu'on dessine très bien et que ça fonctionne bien, des moments où on fait des erreurs et ça marche plus bien.
Au début, la première journée était plaisante parce que j'étais dans des œuvres que je connaissais, j'ai dessiné un Delaunay, donc là je suis dans un univers réaliste que j'aime bien et ainsi de suite.
Christophe.
Et après je suis parti hier un peu plus dans l'abstraction, là je suis plus dans la couleur, dans autre chose, dans les personnages. Et les trois jours en fait se cumulent et permettent d'être plus aussi à l'aise par rapport à la technique du crayon de couleur que j'avais jamais utilisé. Donc ça c'est sympa aussi, et puis le fait de faire 24 heures d'affilée, ça aide aussi à s'entraîner un peu, on va dire.
Là, on entend de la musique. Quelle est-elle ?
Je la connais. Mais je suis incapable de la retrouver là. Je sais que je m'étais dit ce soir, il faut impérativement que je la retrouve. Parce que quelque part, ça va être associé au moment de peinture, cette journée, la musique, le fait d'avoir entendu en boucle, puisque je l'ai depuis 9h ce matin. Mais quelque part, ça met dans l'univers et il y aura l'association Pompidou. Cette musique va être associée en fait à Pompidou, c'est ça qui est marrant, et à ces journées.
Da Gino, signor Maglio. Solo un telegramma ieri l'altro. Voleva un paio di vestiti.
Il reparto calda.
Sì. Telegrafava da Parigi, signor Maglio. Sì, se so qualcosa l'avverto. Sì. Ieri l'altro. Voleva un paio di vestiti.
Il reparto calda.
Sì. Telegrafava da Parigi, signor Mario. Sì, se so qualcosa l'avverto. Sì.
Il faut le regarder depuis le début, j'ai crevé de rire ce film.
Da 2 mesi. Ci siamo sposati da 2 mesi.
On le verra plus. Oh, je l'ai déjà vu en entier. Il faut le voir depuis le début jusqu'à la fin. Tu vois comment ils mélangent tous les films? C'est des chutes de films qui ont été montées par des Italiens. Et ça me fait de rire parce que... Bon, maintenant tu me laisses regarder, ça m'emmerdait.
Flashback du texte écrit sur le pansement.
Abbiamo fatto la guerra insieme.
Secondo questa lettera, vuole unirsi a te, forse potrà dircela questa.
Nessuno lo sa, abbiamo tenuto segreto. Nessuno lo sa.
Moi, j'ai fait n'importe comment.
Henriette.
C'est-à-dire que ce que les gens ne veulent pas faire, parce qu'il faudrait trop s'appliquer, je fais. Et puis, c'est terminé après. Hein? En particulier, les grands de cinéma de je ne sais plus qui là-haut, les grands de cinéma qui bougeaient. Bah, personne n'ose faire ça. Les gens qui dessinent vraiment sérieusement ne s'amusent pas. Bon.
Est-ce que vous êtes là pour vous amuser?
Ben, parce que ça va fermer, c'est terminé. Hein? Dans 5 ans, ça va rouvrir. Et peut-être dans 7 ans, donc je ne verrai plus jamais le Centre Pompidou parce que je serai morte avant. Et que c'est... Ben, oui,
et que c'est ma cour de récré. Surtout l'été, c'est formidable parce qu'il y a la clim à la bibliothèque.
Et là, les œuvres que vous avez recopiées aujourd'hui, vous avez choisi lesquelles, à part le petit film dont vous parliez ?
Les 10, Liz Taylor d'Andy Warhol. Alors moi, je déteste Andy Warhol. C'est pas une répulsion pour Andy Warhol, c'est une répulsion pour ce qu'il montre. Et en dessinant, j'ai bien compris que c'était exactement la répétition capitaliste, machin, le travail à la chaîne, les boîtes de... toutes ces horreurs qui nous étouffent, quoi.
Claude Askolovitch, sur Arte, 7 mars 2025.
Je suis venu vous parler de l'atrocité d'un regret. Vous savez, quand on comprend qu'on est passé à côté d'un amour, d'une femme, d'un parent, d'un ami, de son rire musical, sa beauté, tel un tableau, et puis voilà, c'est fini. Ah, tu me croyais à qui ? Eh bien non, je me dérobe ou on me dérobe à toi. Je suis donc venu vous parler de la perte et aussi de la conscience de ma fin. Il serait fou de l'oublier. Qu'ai-je à vivre encore ? Où serais-je demain ? Où serais-je dans 5 ans ? Serais-je encore au moins tant nous assiègent la mort, les maladies, les guerres où se perdent les hommes et souvent aussi les tableaux ? Oui, où serais-je dans 5 ans quand rouvrira, refait à neuf, le Centre Pompidou, oui, Beaubourg à Paris, qui cette année ferme par morceaux pour une rénovation ?
Ça me déprime. Ouais, ça me déprime parce que c'est un lieu où je viens, je sais pas...
Evie, copiste.
10 fois par an, peut-être une vingtaine, et j'y viens pour voir ceux qui sont là depuis toujours, ceux qui changent, ceux qui... Et donc, oui, ça me fait un petit pincement au cœur.
Mais déjà, il ferme, on espère tous qu'il rouvrira, mais quand tout est incertain, on se dit que tout ce qui ferme n'est pas forcément garanti de réouvrir, quoi.
Ça fait tellement d'années que je viens depuis que je suis étudiant. Et puis en tant que voisin, ben, c'est dommage, je ne pourrais plus y rentrer. Dès que je vois de la lumière, je ne pourrais pas rentrer. C'est dommage.
Plein de gens sont tristes, mais moi je me dis, ben, peut-être temps de rénover avant que ça s'écroule. Faut pas avoir de mélancolie des ruines. Et aujourd'hui, les musées sont en danger. Et je trouve qu'on met beaucoup de moyens pour Notre-Dame, ce qui est formidable. On voit qu'elle a été reconstruite en à peine 5 ans. Donc franchement, les 5 ans, on ne va pas les voir passer. Moi, je trouve que c'est nécessaire que l'établissement se rénove. C'est bon signe, c'est rassurant. Je ne suis pas inquiète du tout.
Non, non, c'est un très grand malheur. C'est un très grand malheur. Et surtout la peur qu'il ne fasse un centre commercial, quoi, en gros.
Je ne vois pas comment on pourrait le réhabiliter autrement que pour ce qu'il est. C'est quand même... Il y avait on disait que le ventre de Paris, c'était les Halles. On est à 2 pas des Halles. Et là, franchement, après le chipster géant du centre commercial des Halles, non, je crois pas qu'on touchera Beaubourg.
Une collection comme ça, c'est très, très important pour la vie culturelle de Paris, la France, Europe.
Tom, copiste.
Je manque une collection comme ça. Oui, c'est triste.
Un lieu comme ça, il faut pas qu'il disparaisse, quoi. Donc réparez-le et puis rouvrez-le vite. Il va s'en passer des choses en 5 ans, quoi. Et puis tous les gens qui travaillent pour le Beaubourg, ils vont devenir quoi, tous les gens qui travaillent là ? Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont être mis ailleurs, c'est possible. Mais il y en a qui sont peut-être en CDD et ceux-là, ben, c'est mort, quoi.
Je m'appelle Thier, j'ai intégré le centre en tant qu'agent d'accueil, ça fait 3 ans. De tous les musées que j'ai pu voir et visiter, c'est le seul dans lequel je me vois travailler vraiment. Que ce soit l'équipe, les couleurs, l'histoire du centre, en fait, c'est incroyable. Donc oui, j'adore travailler ici.
Là, ça ne désorganise pas trop qu'il y ait plein de copistes assis un peu partout. Vous n'avez pas trop peur pour les œuvres, ça va ?
Bah justement, j'ai l'impression que ça apaise les visiteurs. Ça apaise les enfants de regarder ce que les copistes font. J'ai jamais vu le musée aussi rempli et pourtant si calme.
Et là, du coup, il va fermer. Vous, qu'est-ce que ça va changer pour votre métier ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Alors moi, je suis encore étudiante. Enfin, cette année, je prends une année de césure, mais du coup, l'année prochaine, je reprends. Donc, dans tous les cas, il fallait que je dise au revoir au centre. Je finis dans 2 semaines. C'est un sujet un peu anxiogène pour moi, mais parce que je me dis qu'à la réouverture, donc de 5 à 10 ans, j'aurais changé. Là, j'ai 21 ans, j'aurais peut-être 31 ans quand ça va rouvrir. Donc, je serai à un autre stade de ma vie. Peut-être que je reviendrai avec mes enfants. Enfin, on ne sait pas. Je pense que tous mes collègues pourront vous le dire. C'est assez émouvant, en fait, cette fermeture. Et surtout qu'on sait qu'il y a plein de choses qui vont changer. L'architecture va changer, intérieur. Certaines galeries vont disparaître. La collection va changer, je pense. Il y a plein d'œuvres qui vont me manquer, moi. Il y a plein d'œuvres dont je suis attachée. Agame, Ben, une autre œuvre, Beautiful Song, ma préférée, qui est au 5e, qui a été décrochée. Les 3 bleus de Miro, que tout le monde cherche. Le bleu clin. Enfin, plein de choses incroyables qui vont partir, quoi. C'est très bizarre, je trouve ça assez toxique de dire ça en entreprise. Mais c'est vraiment une famille, pour le coup, Pompidou. Moi, c'est mon premier vrai travail. Je suis arrivée ici, j'avais 18 ans quand même. Et le truc, c'est que vraiment, les gens sont bienveillants. Donc là, il y a vraiment une énergie de on vous dit au revoir aux vacataires. Je suis encore vacataire, j'ai pas de CDI. Il y a vraiment tout le monde qui couvre un peu ce truc-là. Et il y a déjà une vague de personnes qui est partie, avec qui on reste en contact. Et là, du coup, une autre vague qui va partir. Du coup, oui, on va faire un petit au revoir. Moi, je compte faire des petites surprises. Voilà, je le dis pas là. Comme ça, les autres ne le sauront pas. Moi, j'ai la chance d'être toute jeune, de pouvoir faire changer de vie 40 fois. Mais il y en a d'autres pour qui c'est la fin. Donc oui, il y a une ambiance assez particulière de stress. Bon, en fait, on est sûr de rien, quoi.
J'avoue, ça reste encore un peu flou.
Gaëlle.
Donc, faut pas que ça reste flou trop longtemps.
Parce que les œuvres, elles vont devenir quoi ?
Personnellement, c'est pas tant les œuvres. Les œuvres, on les retrouvera. Elles seront au Grand Palais. Là, il y a la première exposition sur l'art brut qui va commencer. Ensuite, il y a déjà une programmation sur le Grand Palais. Hein. Mais ce qui est surtout regrettable, c'est que c'est un centre culturel, un peu ce que je disais. Donc, c'est tout le travail, en fait, sur l'ensemble du bâtiment, donc la BPI, Kandinsky et l'IRCAM, qui va disparaître là pendant les 5 ans.
Chers visiteurs, chères visiteuses, au niveau 4 a lieu le musée recopié. Pour 3 jours, 500 copistes se sont relayés pour recopier l'intégralité des collections permanentes du Centre Pompidou avant sa fermeture. Et là, c'est la dernière heure de 3 jours de marathon. Et à présent, chers copistes du musée recopié, voilà, j'ai le plaisir de vous dire qu'il nous reste 50 minutes, les 50 dernières minutes, les dernières œuvres sont en train d'être finalisées. Rendez-vous tous et toutes à 18h devant la galerie Ouest où sont accrochées toutes les copies pour finir tous ensemble ce marathon fou. À tout à l'heure.
Déjà hier, en venant accrocher nos copies,
Cécile,
on a discuté avec des gens et la médiation, elle a déjà commencé un petit peu hier, comme ça, de manière informelle.
Le principe, c'est qu'aujourd'hui et demain, il y a des anciens copistes qui deviennent médiateurs, médiatrices et qui expliquent les œuvres aux visiteurs.
En fait, ce qu'on nous a dit, c'est vraiment vous expliquer la démarche, vous expliquer votre expérience. Enfin, c'est vraiment au feeling ce que chacun a ressenti. Et puis, c'est aussi dire aux gens que, comme l'idée, c'est aussi le musée imaginaire, s'ils veulent, ils peuvent s'amuser, ils peuvent détacher des... prendre un dessin dans les portants, l'afficher, en enlever d'autres. Bon, les gens ne le font pas beaucoup, ils sont un peu timides, mais ils peuvent, dans l'absolu, ils peuvent le faire, quoi.
Moi, j'ai choisi ces deux œuvres, j'avoue qu'elles n'ont pas l'une ou l'autre à voir ensemble. Celle-ci, elle est très colorée, c'est une succession vraiment de lignes. Je ne sais pas si ça a été fait par un enfant ou pas. Et l'autre, c'est un ensemble de traits noirs et jaunes et qui crée une forme. Et pareil, ça m'a attiré tout de suite. Voilà.
Et alors, où est-ce que vous allez les mettre ?
Justement, on essaie de trouver de la place. Ok, d'accord. Du coup, on superpose les œuvres. Voilà. Ah oui, du coup, ça se cache.
Ce qui est vraiment très important, c'est que
André Malraux.
On se rende compte de ce que signifie dans notre civilisation
13 juillet 1973.
Voilà. Le fait de la présence simultanée d'œuvres d'art profondément différentes et l'immense question que ça pose. Le musée imaginaire, en réalité, il est dans l'esprit de chaque artiste. Il n'existera jamais nulle part.
Comment dire, comment vous pouvez visualiser ça? C'est. Imaginez, vous allez à la déchetterie, vous prenez tous les objets, vous les peignez toutes les couleurs et vous écrivez dessus tout ce qui vous passe par la tête. Et vous en faites une cabane géante où vous, en plus, vous vendez des disques et vous, voilà, et vous invitez les gens à venir et ça fait ça en gros.
Marie, copiste.
Je suis complètement fanatique de Ben et de ça. Et du coup, voilà, j'ai fini dans le magasin de Ben. Et en plus, c'est un hommage parce que Ben est mort il n'y a pas longtemps. Et c'était super émouvant parce que c'est un lieu qui est plein de présence en fait, cette œuvre, parce que ça a vraiment vécu en fait. Il y a eu des passages dedans, c'était vraiment son disquaire, son lieu de vie et c'était beau. Enfin, j'ai envie de pleurer là en parlant, mais j'étais tellement heureuse de passer autant de temps avec. Enfin, j'ai envie de le ramener chez moi en fait, le magasin de Ben. Ben parle beaucoup de. Enfin, Fluxus en fait, c'est le mouvement Fluxus qui parle du fait que l'art c'est la vie, dans l'idée qu'en fait toute chose peut être art. Et dedans, il y a une chose qui est écrite, c'est « Écoutez les gens, la musique, c'est eux ». Et donc, je pense que cette cabane, c'est une sorte d'accumulation de paroles, de gens, de choses qu'il entendait et qu'il écrivait au fur et à mesure, d'objets. C'est une sorte d'énorme collage vivant avec toutes choses récupérées, toutes choses trouvées, des morceaux des souvenirs, des récits. C'est très typographique. Il y a beaucoup de typographies différentes, donc des lettres, des écritures... Dessous toutes les formes possibles, il y a plein de fautes d'orthographe aussi, c'est génial.
Passé en fin d'après-midi, je dirais, vers les 17h tous les jours, pour faire des photos.
Parce que vous saviez qu'il y avait
ce
grand marathon de dessin.
Voilà, oui.
Okay. Qu'est-ce que vous avez vu tous les jours à 17h?
Des gens passionnés, convaincus de ce qu'ils faisaient. Enfin, vraiment, c'était un plaisir de voir les gens travailler. Il y a un dessinateur qui m'a dessiné.
Ah ouais?
Oui.
Où ça?
Si. À un moment, j'ai vu qu'il me dessinait. Alors, j'ai dit, la pose est bonne. Alors, la pose est extra, c'est extra. Alors, j'ai donc regardé, puis, encore de plus près, ce qu'il avait fait. Mais ils sont vraiment bien campés, ces personnages. Ah, mais c'est qu'il avait le coup de patte, le gars. En très peu de coups de crayon.
Les personnages, ils font quoi, là?
Ils sont en train de dessiner dans différentes positions. Mais le plus surprenant, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont allongés. Pas tous, hein, mais enfin, ce qui me frappait quand je me baladais aussi, c'était les gens qui prenaient des positions complètement invraisemblables pour dessiner.
Il y a quelques jours, le Centre Pompidou a fermé pour 5 ans. Pendant ce temps-là, combien de lieux culturels fermeront et ne rouvriront pas? Combien d'expériences artistiques comme celle-ci n'auront pas lieu? Combien de travailleurs et de travailleuses de l'art disparaîtront en silence? Et si le musée ne rouvrait pas? Si nous avions, sans le savoir, vécu ces derniers instants? Peut-être continuera-t-il à vivre dans nos souvenirs, dans nos mémoires, dans le récit qu'on en fera à nos enfants. On leur dira qu'à une époque, il existait des services publics et qu'ils étaient le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. On leur dira qu'à plusieurs, on peut faire l'impossible, comme recopier tout un musée en seulement 3 journées. Peut-être aussi qu'on aura lutté pour sauver ce qui peut l'être, que les lieux culturels ne fermeront pas, que le Centre Pompidou rouvrira et qu'on s'y retrouvera.
Chers copistes, vous êtes tous là?
Oui.
Pas trop fatigués?
Non.
C'est reparti pour 3 jours?
Oui. Oui, j'arrive.
Alors, nous partîmes 500. Et par un prompt renfort, nous fîmes 3000 copies en arrivant au port. Non, en réalité, on a fait 1297 copies C'est-à-dire que nous avons recopié l'intégralité du musée. Merci à toutes et tous d'avoir remporté ce pari, ce grand challenge. Il a été tenu. Comme il est de
Pompidou coutume, disparaît.
Depuis 3 jours en tout cas.
Un musée recopié.
Une photo finale pour immortaliser ce moment. Et donc je vais vous inviter à vous rassembler là devant la galerie Ouest.
Avec Francine,
et on va prendre, voilà, cette
Henriette,
photo des survivants,
Evie,
qui sont bien plus nombreux que ce
Didier,
matin. Alors peut-être que
Gaël,
certains sont revenus des autres,
Brigitte,
des autres journées.
Sylvain.
Allez-y, rapprochez-vous.
Bintou.
Comme vous avez
Ézéchiel,
vu, nombre d'œuvres, nombre de figures
Élise,
aujourd'hui, j'imagine que vous en êtes
Léonie,
remplis. Alors on va essayer de faire
Ulysse,
surgir tous les corps,
Tom,
toutes les figures, toutes les
Marie,
abstractions, tous les mouvements
Christophe,
cinétiques que vous avez en vous.
Cécile.
Allez-y, prenez les postures
et
des
Jean-Yves,
tableaux que vous avez recopiés.
Merci à tous les copistes et aux équipes de l'école parallèle imaginaire et du centre Pompidou.
C'est dans la boîte ?
Prise de son, Florent Bujon et Pierrick Charles. Mixage, Éric Boisset. Archivina, Emmanuel Lucioni. Avec des extraits des films Beaubourg, Centre d'art et de culture, de Roberto Rossellini, 1977. Et Verifica Incerta, de Gianfranco Barrichello et Alberto Griffi, 1964-1965. Un documentaire de Coppelia Menardi et Simon Gauchet, réalisé par Asia Weber.
Qu'est-ce que c'est, l'espèce de grande tour là-bas ? C'est un pad de lancement.
L'expérience, Aurélie Charon et Inès Duperron.
Le bâtiment il est beau mais la maquette elle est belle. Le bâtiment n'est pas beau mais la maquette est belle. Avec tous ces tuyaux.
Je sais pas moi.
Moi ça c'est
le.
Tiens, il y a des affumés.
Tiens.
Moi, une usine à pétrole.
C'est quoi, toi ?
Une usine à pétrole.
Une usine à pétrole.
Ah, c'est ce que vous faites, là. Vous êtes en train de nous enregistrer.